Sounou Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une douleur particulière qui en serre la moitié du crâne donne l'impression que des pulsations cardiaques résonnent à l'intérieur de la tête. Des désagréments accentués par le mouvement et peuvent même contraindre à s'aliter, voire rester figé dans l'obscurité. La migraine concerne les femmes dans 3 cas sur 4 et parfois confondue avec d'autres types de céphalées, ce qui perturbe sa prise en charge et son traitement. Les crises peuvent se déclencher dans certaines circonstances, émotions, stress, fatigue, insomnie, période menstruelle, changement climatique ou alimentaire, des crises qui peuvent durer plusieurs jours et se solder par une intense fatigue. Et la migraine, si elle ne présente a priori pas de risque immédiat pour la santé, n'est pas un mal de tête ordinaire que va calmer la prise d'un simple cachet. C'est une maladie neurologique qui peut se révéler particulièrement invalidante en raison des douleurs intenses qui lui sont associées et de leur fort impact sur le quotidien, vie familiale, cours des études ou activités professionnelles. La migraine, on en parle dans Priorité Santé avec vous, docteur Dominique Valade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, ancien chef du service urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière à Paris. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Cameroun, où nous retrouverons le docteur Benjamin Tchaleux, neurologue à l'hôpital général de Douala. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons avec le docteur Martin Ekeke Monono, expert santé, stratégie et gouvernance à l'Organisation mondiale de la santé pour la région Afrique. Nous reviendrons sur le projet de couverture santé universelle promu par l'OMS.
RFI.
Docteur Dominique Valade, la migraine, presque tout le monde connaît le nom de cette maladie. Et pourtant, beaucoup de migraineux ne sont pas bien diagnostiqués. Comment l'expliquer ?
Alors, tout d'abord parce que ce ne sont pas des migraineux. C'est ça le gros problème. La France est un pays, enfin le français est une langue dans laquelle on assimile migraine et céphalée. En anglais, quand on parle de mal de tête, on parle de headache. Et quand on parle de migraine, on parle de migraine. En France, on parle de migraine pour tout.
Donc on dit des fois, j'ai la migraine, en fait c'est un mal de tête.
En fait oui, c'est probablement une céphalée de tension musculaire, parce qu'on est un peu énervé, et donc ça provoque un mal de tête.
Alors justement, pour éviter les confusions, quels sont les symptômes tout à fait caractéristiques à la migraine ?
Alors, la migraine c'est donc une pathologie qui dure de 4 à 72 heures, contrairement à la céphalée de tension qui va durer des jours et des jours. Deuxièmement, elle a 4 caractéristiques bien précises, c'est l'hémicranie. Ça prend un hémicrane.
La moitié de la tête, on
voilà,
va dire.
Voilà, la moitié de la tête, au moins au début. C'est une douleur battante, ça tape comme le cœur la plupart du temps, mais ça peut serrer au bout d'un certain temps, bien évidemment. C'est une douleur qui est sévère, voire très sévère, et c'est une douleur qui est augmentée par l'exercice physique. Et enfin, ça s'accompagne de 2 autres caractéristiques. C'est, il y a une gêne au bruit et à la lumière, et il y a des nausées et ou des vomissements.
Alors, pas forcément tous ces symptômes en même temps.
Non.
On va dire, pour dire qu'il y a migraine, il faut par exemple qu'il y ait combien ?
Il faut au moins 2 des 4 premiers et 1 des 2 derniers.
Alors, vous avez bien sûr parlé de la migraine. Hein, on dit justement mal de tête, ce mal de tête tout à fait particulier. Comment expliquer justement cette intensité très particulière de la douleur lorsque l'on souffre de migraine, docteur Valade ?
Alors, pour faire très simple, c'est une onde qui se déplace sur le cerveau et qui génère une vasodilatation, c'est-à-dire des vaisseaux qui deviennent de plus en plus gros, qui se dilatent. Et comme ces vaisseaux sont entourés de plexus nerveux, ça tire sur ces vaisseaux et ça provoque un syndrome inflammatoire.
Alors en préparant cette émission, j'ai appris ce terme de migraine avec aura. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Il y a les migraines sans aura, A-U-R-A, hein, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien. Migraine avec aura. Docteur Dominique Valade, c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, il faut comprendre tout de suite que, au point de vue physiopathologique, la migraine, c'est dans un premier temps une petite vasoconstriction, le vaisseau se resserre, et secondairement, il s'ouvre brutalement. Dans la migraine avec, ça c'est la migraine sans aura. Dans la migraine avec aura, au lieu de se fermer progressivement, il se ferme complètement. Et suivant la zone dans laquelle ces vaisseaux se ferment, on a des troubles visuels, si on est dans la zone visuelle, des troubles sensitifs, si on est dans la région sensitive, voire des troubles de la parole, si on est dans la zone de la parole.
Ça peut même faire peur, faire penser par exemple à un AVC,
absolument,
mais c'est réversible.
La plupart des gens pensent à un accident ischémique transitoire. La seule différence, c'est que dans l'accident ischémique transitoire, tout s'installe ensemble, et là, comme c'est une onde qui se déplace, on a ce que l'on appelle une marche migraineuse. C'est-à-dire qu'on a d'abord des troubles visuels, puis sensitifs, puis phasiques.
Alors justement, quand on arrive avec ces troubles très significatifs, est-ce qu'il arrive parfois aux médecins de prescrire des examens complémentaires, de l'imagerie, justement, s'il y a une inquiétude ?
Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que pour parler de migraine sans aura, il faut avoir fait au moins 5 crises identiques. Pour parler de migraine avec aura, il faut avoir fait au moins 2 crises. Donc, si c'est la première pour une migraine avec aura, ou la 2, 3 ou 4e pour une migraine sans aura, il est loisible de faire des examens complémentaires. Au-delà d'un certain nombre de crises, on n'a plus aucun examen complémentaire à faire, puisque ce n'est pas une maladie du cerveau, mais une maladie des vaisseaux de la méninge.
Et justement, quand on s'installe dans cette maladie avec aura, ça veut dire que tout le reste de notre vie, on aura les mêmes types de migraines ou ça peut changer ?
Pas du tout, ça peut changer tout à fait.
Vous avez
tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. On peut avoir, d'ailleurs c'est le propre essentiellement des jeunes enfants, voire des adolescents, d'avoir des migraines avec aura, qui au fil du temps disparaissent et se transforment en migraines sans aura. On n'a plus que la céphalée et on n'a pas le phénomène annonciateur de troubles visuels, sensitifs ou phasiques.
Alors, on a décrit les symptômes. Est-ce qu'on a des chiffres sur la proportion de personnes, justement, atteintes de migraines, docteur Valade ?
Tout à fait. Alors, c'est très intéressant. En plus, nous sommes sur une chaîne internationale, donc je vais vous donner des statistiques internationales. C'est là le grand intérêt. On considère que chez les Caucasiens, c'est-à-dire les Blancs, hein, en gros, pour être simple, c'est 12,5% de la population. Chez les populations africaines, c'est 10%, et chez les populations asiatiques, c'est 8%. Il y a moins de migraineux, génétiquement parlant, chez les Asiatiques qu'il n'y en a, par exemple, chez les Caucasiens.
À cause des vaisseaux du cerveau ?
On ne sait pas.
C'est comme inconnu. Ça. Et comment expliquer, là par contre, il doit y avoir des explications, pourquoi les femmes sont davantage sujettes aux migraines que les hommes ? Et là, c'est vraiment significatif.
Oui, parce que c'est significatif et c'est faux.
Ah bon ?
Totalement faux.
Alors, il faut tout réviser. Il faut réviser toute la littérature.
Absolument. Non, c'est pas toute la littérature. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, avant la puberté, il y a 55% de petits garçons pour 45% de petites filles qui se déclarent migraineux. Se déclarer signifie avoir des crises. Or, au moment de la puberté, les filles ont quelque chose que les garçons n'ont pas, ce sont les règles. Et cette chute brutale des œstrogènes déclenche des crises de migraine chez des migraineux potentiels. Donc le nombre de petits garçons ne diminue pas, mais il n'a pas ce facteur déclenchant, ce qui fait qu'un grand nombre de petits garçons potentiels ne se révèlent pas avoir des crises de migraine. Alors en fait, il faudrait dire, il y a 65% de femmes présentant des crises de migraine et 35% de petits garçons, mais il ne faut pas dire qu'il y a 65% de femmes migraineuses.
Ça veut dire que c'est cette période, ce changement hormonal qui a déclenché, qui a fait se révéler la pathologie.
Absolument, parce
qui était latente.
Pour faire des crises de migraine, il faut avoir une anomalie génétique sur le chromosome 8, et ça, il y a beaucoup de patients qui l'ont. Et après, secondairement, si vous ne faites jamais de facteur déclenchant, eh bien vous n'aurez jamais de crise de migraine. Et vous serez pourtant migraineux.
Et dans vos consultations, docteur Dominique Valade, est-ce que vous avez vu des typologies, des grands traits de malades ou en général c'est totalement singulier ?
Vous savez, il faut comprendre que malheureusement, 12,5% de la population, pour prendre la France par exemple, ça représente 8 millions de patients. Donc on voit absolument de tout. Vraiment, n'importe quel facteur, il y a autant de facteurs déclenchants que de patients.
Et justement, est-ce que on parlait des facteurs, des raisons au-delà du génétique dans le quotidien ? Est-ce que en consultation, ces patients, docteur Dominique Valade, vous disent j'ai fait ceci, j'étais dans telle circonstance et ma crise s'est déclenchée ? Est-ce qu'il y a dans l'environnement, par exemple, des facteurs déclenchants ?
Oui, il y a surtout quelque chose qu'il faut respecter, c'est l'hygiène de vie. Un migraineux doit se lever heure fixe, doit se coucher heure fixe et surtout doit manger heure fixe. L'hypoglycémie est un énorme facteur déclenchant.
Est-ce qu'on peut justement éviter certains de ces facteurs, faire des stratégies pour ne plus être confronté à ce qui va faire déclic pour la crise de migraine ? Ou est-ce que finalement, au bout du compte, ça ne sert pas à grand-chose ?
Ça sert quand on a réussi à trouver son facteur déclenchant. Un exemple, les migraines dites cataméniales, c'est-à-dire qui surviennent durant les règles. Eh bien, par exemple, on peut utiliser une pilule. Il y a certains types de pilules qui coupent les règles et qui évitent la survenue de ces crises.
Alors, on va se retrouver dans quelques petites secondes parce qu'on va bien sûr donner la parole à vous, auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Une première auditrice, c'est Anne qui nous appelle de la Caraïbe, précisément la Martinique, les Antilles françaises, la ville de Lamantin. Bonjour Anne.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour. Donc c'est la première fois que j'interviens à la radio. Donc malheureusement, je n'ai pas pu suivre ce qui s'est dit auparavant. Donc vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend.
D'accord. Donc, bonjour docteur Valade. Voilà, j'avais une ou deux questions à poser. Voilà, donc je suis migraineuse depuis juin 2002, depuis mon premier accouchement. Auparavant, je n'avais pas de maux de tête ou de migraines d'enfance. Donc, j'ai essayé différents traitements de fond avec le médecin, avec le neurologue. Donc, actuellement, j'en suis, malgré le traitement de fond, entre 12 à 15 crises de migraines par mois. J'ai un traitement aussi de crise, donc malheureusement je suis allergique aux anti-inflammatoires, donc j'arrive quand même à prendre du nifluril, cette molécule arrive quand même à passer. Donc j'ai une application qui s'appelle Migraine Buddy que j'ai découverte il y a 6 mois, qui est vraiment super et que je recommande à tous les migraineux et qui m'ont permis en fait d'analyser vraiment précisément les différents facteurs déclenchants et je me suis rendu compte qu'au fil... Au fil des années, ça a vraiment évolué et surtout depuis ma dernière grossesse.
Ça veut dire, excusez-moi de vous interrompre, Anne, ça veut dire que vous établissez un calendrier des crises, vous indiquez,
voilà,
vous renseignez sur ce qui se passe.
Voilà, exactement. Le neurologue m'avait demandé d'établir un calendrier des crises. Mais c'est vrai que sur les petits papiers, c'est quand même pas super pratique. Et lorsque j'ai découvert cette application, c'est quand même très très précis. Ça vous demande l'heure de début, l'heure de fin, les facteurs déclenchants, ce qu'on a mis en place. Enfin, c'est très très, c'est assez exhaustif. Et je me suis rendu compte que pour 70% en fait du facteur déclenchant, c'était lié, mais depuis ma dernière grossesse, aux menstruations. Donc 5 jours avant les menstruations, et comme j'ai un stérilet au cuivre, 5 à 6 jours pendant les menstruations, puisque j'ai des menstruations qui durent à peu près 10 jours. Donc j'en suis déjà à 10 jours de crise. Et le reste des facteurs déclenchants, c'était lié au bruit, à la luminosité, à la chaleur. Bon, après, c'était un petit peu éparpillé. Donc la question que j'avais à poser, c'était par rapport à ce facteur de menstruation. Je sais qu'il existe en fait pour les femmes qui souffrent d'endométriose, ce qui n'est pas mon cas. Sachant que je ne supporte pas les hormones type pilules, etc., que ça me favorise encore d'autres migraines, est-ce que je pourrais prétendre en fait à une injection qui pourrait carrément stopper les menstruations, me mettre en fait en sorte de pré-ménopause?
Docteur Dominique Valade, cette question donc liée à ces migraines spécifiques, hein, ouais, associées au cycle menstruel chez Anne.
Alors, en règle générale, là déjà, je ne suis pas gynécologue, donc c'est un petit peu difficile à répondre à votre question, mais en règle générale, les migraines surviennent plutôt pendant les règles, c'est-à-dire dès le début des règles, la chute brutale des œstrogènes qui provoquent les règles, et là, on met un triptan, qui est un vasoconstricteur, en place matin et soir pendant toute la durée des règles, et généralement, on arrive à arrêter ce type de crise. La deuxième solution consistait à prendre une pilule qui arrête les règles, et comme ça, on supprime aussi les migraines qui sont liées à ces règles. Quant à vous, chère madame, vous ne supportez pas les hormones, donc il faudra que vous voyiez avec votre gynécologue qu'est-ce qu'il pourra vous proposer pour prévenir la survenue de ces céphalées les quelques jours avant vos règles, ou alors être obligé de prendre ce traitement de triptan quelques jours avant vos règles, lors de la première survenue de céphalée.
Voilà ce conseil du docteur Dominique Valade. Merci beaucoup Anne pour cet appel de Martinique. En tout cas, ce qu'on constate avec ce témoignage de Anne, docteur Valade, c'est qu'il y a eu une sorte de d'errance. Elle a pris beaucoup de traitements. Ça veut dire qu'il faut réviser le traitement, l'adapter. Comment justement On peut, en tant que médecin, savoir ce qui est bon pour tel ou tel type de patient.
Alors c'est très difficile, parce que généralement, on donne un traitement de fond, c'est-à-dire un traitement, il y en a 17. Oui, donc à partir du moment où il y a plusieurs traitements de fond, ou traitements pour une pathologie, c'est qu'il n'y en a aucun qui est parfait. Sinon, il y en aurait un seul. C'est déjà bien compliqué. Donc après, on doit s'adapter aux facteurs déclenchants et surtout aux autres pathologies environnantes. Je prends un exemple. Un patient, par exemple, qui est très stressé, on va lui donner un bêta-bloqueur parce que ça va diminuer son stress, donc diminuer le facteur déclenchant. Un patient qui est dépressif, on va lui donner un antidépresseur qui marche sur la maladie migraineuse et qui marchera aussi sur son syndrome dépressif. Vous voyez, un patient qui a des vertiges, on va lui donner un antivertigineux, enfin bon, voilà. Et on a tendance, et c'est la meilleure solution, de commencer par un traitement qui s'adapte aux facteurs associés à la maladie migraineuse.
J'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve. En général, quand on souffre de dépression et qu'on a de la migraine, est-ce qu'on peut dire que l'un est associé à l'autre, l'autre est associé à l'un? Est-ce qu'à force d'avoir des migraines, on peut devenir dépressif?
Alors, bien sûr qu'on peut devenir dépressif, ça c'est une dépression réactionnelle. Mais par contre, il y a deux pathologies qui sont comorbides, c'est-à-dire dans lesquelles on trouve plus facilement l'autre pathologie, ce sont l'épilepsie et le syndrome dépressif.
Et souvent, donc, même spécialité, la neurologie.
Exactement.
On va prendre un autre auditeur en ligne. C'est un appel de Bretagne, du Morbihan et même de Belle-Île-en-Mer, pour être précise. Jérôme, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Jérôme.
Oui, alors moi, il m'arrive très souvent d'avoir des migraines après avoir fait une course, un running de 20 à 25 minutes. Aussitôt après, j'ai forcément une migraine qui arrive. Elle n'est pas forcément violente, elle est lancinante sur toute la journée. Alors j'ai essayé d'y remédier en m'hydratant pendant ma course, en m'alimentant pendant la course également, mais rien n'y fait en fait. À chaque fois, je me tape une migraine. Et cette migraine, ça m'arrive aussi de l'avoir à la fin de ma journée de travail. Et c'est toujours sur le côté droit. Et je sens une veine sur ma tempe que je peux sentir, elle palpite en fait. Alors je voulais savoir pour ma course, qu'est-ce qui pourrait réduire ces migraines ou qu'est-ce qui provoquerait ces migraines.
Docteur Dominique Valade, on ne va pas quand même conseiller à Jérôme d'arrêter le sport?
Non, on ne va pas lui conseiller d'arrêter le sport. Par contre, je ne suis pas du tout sûr que ce soit des crises de migraines. Alors, je ne vais pas faire une consultation
à distance,
au
oui.
téléphone. Hein. D'abord, la migraine, ce n'est pas dû à une veine mais à une artère. Donc je pense que ça doit être plutôt une artère que vous sentez battre, parce que les veines, ça ne bat pas. Donc c'est l'artère temporale, probablement, que vous sentez battre. C'est vrai que effectivement, on peut avoir comme facteur déclenchant l'effort physique. Malheureusement, lorsque c'est un facteur déclenchant comme cela, généralement, il faut le supprimer. Je ne vais pas vous demander de supprimer l'effort physique, mais je n'ai pas de solution bien particulière à vous donner, parce que dans le cas précis, il faut diminuer votre fatigue. D'ailleurs, vous le dites, c'est aussi le soir en sortant du travail que vous avez tendance à avoir mal à la tête. Vérifiez bien que ça soit, auprès d'un médecin, que ça soit une véritable maladie migraineuse et non pas une céphalée de tension musculaire. En effet, après l'effort physique ou après une journée de travail, on peut être un petit peu tendu et un petit décontracturant musculaire pourrait probablement vous aider plutôt que de prendre un anti-migraineux au long cours.
Alors ce qui veut dire, encore une fois, c'est pas le même traitement selon le mal de tête dont on souffre.
Hein. Absolument, il y a plus de 300 sortes de maux de tête, donc vous imaginez que c'est un petit peu compliqué.
Excellente journée à Belle-Île-en-Mer, hein, Jérôme. On va changer de continent pour rejoindre le Congo-Brazzaville, la ville de Pointe-Noire, où l'on retrouve Michel. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
On vous écoute.
Voilà. Bonjour, moi, je souffre des migraines, ça fait pratiquement depuis que j'atteins l'âge de la puberté. Donc, dans la semaine, je peux prendre du paracétamol 3 à 4 fois. Et je suis allée voir un médecin neurologue, je l'ai expliqué ce que j'avais. Il m'a prescrit un traitement, mais cette fois-ci, du paracétamol un peu corsé avec de la caféine, je crois, dedans, et de l'exomil que je prends le matin et le soir. On a au moins une semaine. Quand je prends ce médicament-là, ça va. 2 semaines après, ces migraines-là reprennent et je suis hyper, hyper tendue, je suis nerveuse, pour un rien, je me fâche et il faudrait que je me repose. Dès que je suis au repos pendant au moins 30 minutes, et ben voilà, les migraines ont repris. C'est difficile, quoi. C'est vraiment pénible. Je suis accro, surtout accro aux médicaments et j'aimerais vraiment que ça cesse. Je voudrais savoir, est-ce qu'on guérit définitivement et qu'est-ce qui cause ces migraines-là? Et j'ai encore une autre question, je voudrais savoir, est-ce que c'est héréditaire? Parce que j'ai ma tante, la sœur de mon papa, qui en souffre pour elle, je peux dire que c'est chronique. Elle dort avec ça, elle se réveille avec des médicaments. Et puis voilà, ça me fait peur un peu parce que dans ma pharmacie, le paracétamol corsé ne peut pas manquer.
Michel, donc, qui se plaint en fait de cette dépendance aux médicaments, paracétamol corsé, comme elle dit. C'est quoi exactement ce paracétamol avec donc de la caféine?
Oui, on s'est rendu compte que la caféine est un produit qui améliore les maux de tête, mais pas spécialement la maladie migraineuse. Par contre, il y a des dosages. Alors, je ne vais pas vous donner des grammes, ça sert strictement à rien, mais je vais vous le donner en tasse de café. C'est beaucoup plus simple. En gros, on considère que 3 expressos dans une journée peuvent améliorer le mal de tête. Au-delà de 3 expressos, vous le déclenchez.
Voilà. Donc mais sur ce qu'elle appelle cette dépendance au paracétamol, il y a une dépendance avec ce type d'antidouleur ?
Il y a une dépendance avec n'importe quel médicament contre la douleur. Cette dépendance, elle apparaît en gros au-delà de 12 comprimés par mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 3 comprimés par semaine de quoi que ce soit lorsque l'on est céphalalgique, lorsque l'on a mal à la tête.
Pourtant, c'est quelque chose qui est facilement atteint.
Et oui, bien sûr.
3 comprimés par semaine.
Bien sûr. Alors, évidemment, si on a la grippe pendant une semaine, on peut prendre 2 comprimés par jour pendant une semaine. Quand je dis 3 comprimés par semaine, c'est 3 comprimés par semaine pendant plus de 3 mois.
Bien sur évidemment. Le long cours, oui.
C'est au long cours. En ce qui concerne Michel, je pense que, en fait, je suis pas sûr qu'elle ait une maladie migraineuse non plus. Elle le dit elle-même, c'est quand elle est très stressée et dès qu'elle se repose, elle se détend et en se détendant, la céphalée diminue. Effectivement, elle prend du Lexomil. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure molécule, mais il n'empêche que effectivement, son médecin a eu raison de lui donner un petit anxiolytique qui devrait lui permettre d'être plus calme. Et en étant plus calme, elle aura beaucoup moins mal à la tête. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladie migraineuse. Et le paracétamol n'est en rien utile dans ce type de pathologie. Si je peux lui donner simplement un conseil, il vaut mieux prendre des anti-inflammatoires que de prendre du paracétamol lorsque l'on a une céphalée jamais plus de 3 par semaine.
Voilà ce conseil. Michel, d'ailleurs, vous le dites vous-même, quand vous dites « je suis accro », on entend bien que derrière, vous avez envie de vous défaire de cette dépendance. Merci en tout cas. Merci beaucoup de cet appel de Pointe-Noire. Une question, Dominique Valade. Est-ce que parfois, justement, vous parliez de ce facteur de stress, d'angoisse, est-ce que l'angoisse du mal de tête ne peut pas donner mal à la tête ?
Vous avez vraiment, c'est typique ce que vous venez de dire. L'anxiété anticipatoire est le principal facteur déclenchant.
Parce qu'on a tellement peur de cette douleur.
Il n'y a rien de pire que Madame X qui dit à son mari, dimanche, on va chez les Dupont, je suis sûr que j'aurai mal à la tête. Et elle aura mal à la tête.
Et c'est pas pour autant inventé.
Ah non, pas du tout.
C'est déclenché.
Cette anxiété anticipatoire. On anticipe la survenue du mal de tête.
On va prendre un autre appel. Le Cameroun, la ville de Douala, où on retrouve Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Le docteur Dominique Valade vous écoute, votre question.
Alors bonjour docteur. Je suis moi aussi sujette à des migraines. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai compris effectivement que c'est de cela qu'il s'agissait. En fait, c'était avec l'aide de mon ophtalmologue qui, lors d'une consultation, après m'a dit, voilà, le problème que vous avez peut très souvent vous provoquer des migraines. Et alors là, j'ai confirmé qu'effectivement, j'avais déjà des problèmes de migraine. Et donc, à la suite, il m'a proposé de prendre souvent du Doliprane, ce que je faisais. Mais avec le temps, la douleur a très souvent refait surface. Et puis, elle est très intense, il faut le dire, très sévère, très violente également. Et donc, lorsqu'elle m'arrive très souvent, je suis obligée de me mettre à l'ombre, je dirais beaucoup mieux à l'obscurité et dans le calme. Ce n'est qu'après quelques minutes que parfois je peux prendre un comprimé, le temps que cela s'apaise un tout petit peu. Donc, je voudrais préciser que c'est une douleur qui m'handicape très souvent, parce que il faut également rappeler que les intervalles entre les crises sont très, très, très rapprochés parfois. Après un épisode, je peux avoir encore une crise dans les 3 ou 5 jours à venir. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Alors, docteur, je voudrais savoir, quelle attitude est-ce que je pourrais avoir en cas de survenue de crise quand je ne suis pas chez moi, par exemple? Parce qu'il faut dire que rester à l'obscurité et dans le calme, ça m'aide tout de même. Et lorsque je me retrouve à l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui peut expliquer que les intervalles entre les crises soient aussi rapprochés?
Alors, donc, Fanny, hein, qui est vraiment embêtée dans sa vie quotidienne, elle nous a parlé de migraines ophtalmiques. C'est quoi exactement les migraines ophtalmiques?
Les migraines ophtalmiques, ça n'existe pas. Mm-hmm. Ce sont en fait des migraines avec aura visuelle. C'est d'accord. Pas pour faire de la dialectique, hein, mais pourquoi je dis ça n'existe pas? Parce que ce n'est pas l'œil qui est touché. Elle a des hallucinations, elle voit des choses qui sont des auras et qui sont des hallucinations qui sont liées à la formation sur son cortex visuel d'une image. Donc, ce sont des migraines avec aura visuelle et ce sont des migraines qui sont très handicapantes parce que vous avez des troubles visuels qui peuvent aller jusqu'à la cécité temporaire. On peut ne plus rien voir du tout pendant un certain temps et c'est très très handicapant. Certes, ça revient toujours, on récupère tout le temps, mais malheureusement, on est très gêné et ça peut être très fréquent. Alors, que peut-elle faire? Eh bien, il y a des traitements. Voilà. Je vous expliquais au tout début que dans la migraine avec aura, c'est une vasoconstriction complète. Donc, il faut surtout pas prendre, et ça, c'est très important, surtout pas prendre de triptans pendant l'aura, puisque ce sont des vasoconstricteurs. On doit prendre un anti-inflammatoire au début de l'aura et un traitement type triptan vasodilatateur au début du mal de tête.
Ce que l'on dit, de toute façon, c'est qu'il faut consulter son médecin.
Bien sûr.
Pour aller
bien évidemment
spécifier justement un traitement tout à fait adapté.
Exactement.
À cette migraine.
Il y a un traitement de fond qui est très spécifique, qui permet de diminuer le nombre, la durée et l'intensité.
Donc, Fanny, consulter un généraliste, c'est possible,
non,
docteur?
Un neurologue,
vraiment, précisément.
C'est vraiment plus spécial.
Donc, trouver donc à Douala un neurologue qui pourra vous conseiller, vous prescrire le traitement adapté. Merci beaucoup, Fanny, de votre appel de Douala. Docteur Dominique Valade, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après cette pause musicale. Vertige exaucé, c'était le groupe Pendentif. On vous retrouve, docteur Dominique Valade, neurologue, ancien chef du service urgence céphalée à l'hôpital Lariboisière à Paris. On vient de parler des mécanismes de la migraine, facteurs génétiques, facteurs environnementaux, crise plus ou moins sévère. On a vu à travers le témoignage de nos auditeurs, de nos auditrices, docteur Dominique Valade, la migraine peut avoir véritablement un retentissement sur la vie privée, sur la vie professionnelle. Pourtant, parfois, quand on parle de migraine, bizarrement, les gens ne sont pas vraiment pris au sérieux, c'est pris à la légère, alors que c'est vraiment très invalidant.
Alors c'est extrêmement invalidant, ça entraîne un handicap, une altération de qualité de vie considérable, mais ça s'explique très bien que les gens voient ça d'une façon un peu particulière. Je prends un exemple. Vous allez chez des amis, vous arrivez à 8h du soir pour dîner, la dame est en train de vomir, elle est dans un état épouvantable. Elle prend son médicament, 2 heures plus tard, vous la voyez arriver fraîche comme une rose. Vous dites, mais elle est folle, c'est pas possible, elle était mourante il y a 2 heures, et là, elle a l'air en pleine forme. Eh bien, c'est ça la migraine. Malheureusement, c'est des passages où vous êtes totalement bien, plus rien, et des passages où vous êtes dans un état épouvantable.
On parle bien de vraies crises, c'est, ah oui, oui, c'est le mot crise. Alors, vous avez évoqué ces traitements de fond, vous avez dit, docteur Dominique Balade, il existe de nombreux traitements de fond. De quoi s'agit-il? C'est une association de plusieurs molécules où il y a des grandes molécules, justement, pour traiter la migraine?
Oui, il y a des grandes classes thérapeutiques, effectivement. Alors, parmi les plus anciennes, c'était ce que l'on appelait les bêta-bloqueurs, c'est-à-dire des médicaments qui bloquent des récepteurs sur les vaisseaux. Il y avait certains types d'antidépresseurs, les tricycliques, comme la mitriptyline, comme enfin différents médicaments. Il y a des inhibiteurs calciques aussi qui agissent à un autre niveau. Il y a des antisérotoninergiques qui agissent sur la sérotonine, qui est l'hormone responsable de la douleur. Et maintenant, on s'oriente plus vers des médicaments de type très différent, c'est-à-dire des anticorps. On passe de la chimiothérapie à l'immunothérapie et on injectera aux patients des anticorps monoclonaux, c'est comme ça, parce qu'ils sont, et qui sont antagonistes de quelque chose qui est responsable de la crise de migraine, dans le cas précis d'un peptide qui est responsable de cette crise de migraine, ce peptide s'appelant le CGRP. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui résistent au traitement? Ou est-ce que ce sont des erreurs de, enfin pas des erreurs, mais des, c'est pas le traitement adapté?
Alors je serais très prétentieux de dire qu'il n'y a personne qui résiste au traitement, ça serait vraiment... Non, il y a sûrement des patients qui résistent au traitement. Il y a toujours une frange de patients chez qui, malgré tout, on n'y arrive pas. Mais en voyant des spécialistes, on finit toujours plus ou moins à avoir une convergence pour diminuer le nombre, la durée et l'intensité des crises.
Alors vous restez avec nous, docteur Dominique Valade, on va tout de suite partir pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Benjamin Tchaleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala. Est-ce que les migraines sont une cause fréquente de consultation dans votre service, docteur Tchaleux?
Oui, les migraines sont représentent à peu près 10 à 15% des consultations dans les services de neurologie au Cameroun. C'est un pourcentage qui est vraiment sous-estimé parce qu'on a passé des études beaucoup plus larges, étant donné que la plupart des patients ne viennent pas directement à l'hôpital. Ou bien ils ne viennent le plus souvent que quand ils ont pris tellement de médicaments et finalement, quand ça ne marche pas, ils viennent voir un neurologue enfin.
Docteur Benjamin Tchaleux, est-ce que ils connaissent cette maladie, la migraine, justement s'ils ont pris des médicaments qui n'étaient pas adaptés, c'est peut-être parce qu'ils ont recours à l'automédication?
Effectivement, parce que dans notre contexte, tout le monde dit « j'ai mal à la tête comme tout le monde ». Donc souvent je leur réponds « moi je n'ai pas mal à la tête ». Tout le monde n'a pas mal à la tête. Quand on a mal à la tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut consulter. Et surtout quand ces douleurs reviennent de façon récurrente. Or, l'automédication est très facile ici parce que on se dirige vers le gazon. Le gazon, c'est vous dire, il y a des médicaments qui se vendent au bord de la route par n'importe qui. Et c'est lui qui vous propose, vous avez mal à la tête, prenez ça. Et le plus souvent, c'est soit du paracétamol, soit des médicaments associés avec de la codéine et autre chose.
Et voire même des faux médicaments.
Mais bien sûr, même des faux médicaments, même des médicaments qui ne sont pas associés. Parfois, ils se dirigent directement dans les pharmacies. Et la plupart des temps, le pharmacien n'est pas là. Ce sont des vendeurs en pharmacie qui leur proposent des médicaments. Et parfois, ils arrivent à se séparer même par abus médicamenteux. Et c'est à ce moment qu'ils commencent à chercher à consulter.
Docteur Benjamin Tchaleux, on l'a bien compris, hein, l'importance de consulter le bon service, voire le bon spécialiste. Vous, quelle prise en charge vous proposez à ces personnes qui souffrent de migraines?
Le traitement de la migraine, effectivement proposé ici, c'est beaucoup plus des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous, on propose le plus souvent le ketoprofène, qui a une autorisation mise sur le marché pour la migraine, mais tout ça marche avec tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais jamais avec du paracétamol. Mais c'est ce que tout le monde prend ici pour les migraines, c'est les paracétamol, et même certains collègues qui ne sont pas de la spécialité prescrivent du paracétamol aux patients, et ça ne marche pas du tout. Dans les traitements des crises, sans aura, effectivement, les triptans, on ne les prescrit pas souvent, compte tenu de deux choses, ça coûte énormément cher par rapport à la bourse des citoyens, et il y a aussi cet échec interindividuel pour la même classe thérapeutique, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc, et puis on donne un traitement de fond, évidemment, les tricycliques ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Bon, parfois, il y en a qui sont associés à la noradrénaline. Donc, c'est le traitement qu'on donne le plus ici, c'est donc anti-inflammatoire et pour le traitement de fond, le tricyclique.
Si vous aviez un conseil aux auditeurs de Priorité Santé, vous disiez tout à l'heure l'automédication à éviter, les médicaments par terre bien sûr à éviter, prendre conseil auprès des spécialistes. Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme conseil à leur donner, docteur Benjamin Chaleux?
Oui, mais je leur dirais que tout le monde n'a pas mal à la tête. Donc il faut arrêter de dire j'ai mal à la tête comme tout le monde. Quand vous avez mal à la tête, il faut consulter. Et il faut consulter le plus souvent, quand c'est des maux de tête qui sont récurrents, il faut chercher à voir le neurologue, parce que là, on va poser un bon diagnostic, parce que les céphalées peuvent être une migraine, bien sûr, mais les céphalées aussi peuvent être annonciateurs d'autres pathologies plutôt symptomatiques. Donc, il faut consulter quand on a mal à la tête.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Chaleux. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala, au Cameroun. Il existe aussi, docteur Dominique Valade, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, peut-être des méthodes alternatives. On a parlé même, dans certains cas, des antidépresseurs, des traitements pour lutter contre l'anxiété. Mais il y a aussi tout un tas de médecines complémentaires qui ne vont pas remplacer le traitement, mais qui vont pouvoir améliorer la qualité de vie du patient.
Absolument. Je veux tout d'abord remercier mon collègue pour son analyse brillante. Et on voit qu'il connaît très très bien la pathologie. Donc je tiens à le remercier. Je pense que ces patients sont remarquablement bien soignés. Donc pour répondre à votre question, effectivement, mais le problème c'est qu'elle doit être adaptée, cette médecine alternative. Parce que je vais prendre un exemple qui est très trivial mais qui est très caractéristique. Un patient dont le seul facteur déclenchant est de boire du champagne, s'il fait de l'auto-hypnose, ça ne changera rien.
Donc vaut mieux arrêter le champagne.
Vaut mieux arrêter le champagne. Et oui,
c'est pas toujours évident.
Ce qui n'est pas toujours évident, je suis bien d'accord. Donc, en fait, les médecines alternatives ont un intérêt pour certains types de facteurs déclenchants. Exemple, quelqu'un pour lequel le facteur déclenchant principal est le stress, il sera effectivement très utile d'utiliser une technique de relaxation, de faire de la sophrologie, de faire de l'auto-hypnose, ou des choses comme ça. Mais si son facteur déclenchant est un facteur courant, par exemple le vent, eh bien malheureusement, ou les précipitations, il ne pourra rien faire contre ce type de facteur déclenchant.
On va donner la parole à un dernier auditeur de Priorité Santé. Cet auditeur, c'est Verdier. Il est en ligne de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Verdier.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Ok madame, je vous remercie déjà de vous permettre de passer aux antennes chez vous.
Je vous en prie,
allez-y. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses de tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Surtout, j'ai été marqué lorsqu'on a parlé de battement de cœur qui accompagne la migraine. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. D'habitude, j'ai des migraines dans des situations particulières. Par exemple, lorsque j'ai des décès de proches, l'échec d'un projet. Et la plupart du temps, ce qui me marque, c'est que c'est souvent accompagné par des vertiges. Parfois, ça va même jusqu'au fait que je vois tellement flou. Et récemment encore, j'ai eu des problèmes de tension qui étaient extrêmement bas, toujours dans les mêmes cas. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, bon, tout à l'heure, il y a une auditrice qui a parlé qui vous a demandé si ça pouvait être héréditaire. Parce que j'ai des sœurs qui ont souvent eu des chutes sévères. C'est-à-dire, elle a une migraine forte et elle se couche là. On est obligé de la médiciner. Je vous remercie également parce que vous avez donné toutes les descriptions tout à l'heure. Vous avez parlé d'antidépresseurs qu'il faudrait peut-être prendre. Donc, mes deux questions étaient de savoir si c'était héréditaire et quel type de médicaments je devrais prendre, tout en précisant que tout ce que j'ai dit là, c'est juste dans le cadre des médecins généralistes qui m'ont reçu. Je ne savais pas qu'il fallait aller voir un neurologue ou quelque chose comme ça.
Alors déjà, Verdier, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne vous donnera pas d'ordonnance par la radio, ça c'est évident, il n'y a pas de consultation dans Priorité Santé, juste des conseils. Docteur Dominique Valade, ce qu'on entend en tout cas quand Verdier témoigne, c'est qu'il y a des événements qui déclenchent chez lui des crises, avec peut-être du stress, de l'angoisse, en tout cas des émotions.
Tout à fait, absolument. Alors déjà, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, effectivement, la maladie migraineuse est une maladie génétique portée par le chromosome 8. Donc il est indiscutable que l'on retrouve toujours dans les ascendants et dans les descendants des migraineux.
Donc pour dire simplement, c'est héréditaire, affirmatif.
Voilà, affirmatif, une chance sur deux.
D'accord.
Donc c'est déjà bien embêtant. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Parce que votre question, c'est ça. Eh bien, vous devez aller voir votre neurologue qui probablement vous donnera un traitement de fond. À quoi sert un traitement de fond? Diminuer de moitié en 6 mois le nombre, la durée, l'intensité des crises. Et il vous donnera un traitement de crise pour diminuer vos crises. Ce traitement de crise sera adapté de manière à ce qu'une crise dure moins de 2 heures. Un traitement qui fonctionne, c'est un traitement de crise qui calme en moins de 2 heures, et un traitement de fond qui diminue la moitié des crises en moins de 6 mois.
Voilà, Verdier, pour ces réponses du docteur Dominique Valade. Il nous reste 20 secondes pour l'avenir. Est-ce qu'on doit attendre de nouveaux traitements? Est-ce qu'il y a des espoirs de ce côté-là? 20
Absolument.
Secondes.
Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on va passer de la chimiothérapie à l'immunothérapie. On fera une injection sous-cutanée, une fois par mois, d'anticorps monoclonaux, qui permettra de servir de traitement de fond.
C'est important pour toutes les personnes qui souffrent de migraines de savoir qu'il y aura peut-être un nouveau traitement, peut-être plus efficace.
Il y a de l'espoir.
Plus efficace dans leur cas. Merci beaucoup, docteur Dominique Valade, de nous avoir éclairé sur les migraines, d'avoir répondu surtout à toutes ces questions des auditeurs de Priorité Santé. Continuez à nous appeler jour après jour. Je rappelle, docteur Valade, que vous êtes neurologue, ancien chef du service urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière à Paris. Nous allons à présent aborder la question de l'accès aux soins, accès aux services de santé essentiels sur le continent africain, alors qu'aujourd'hui le coût de la santé constitue dans cette région une cause majeure de basculement dans la grande, voire dans l'extrême pauvreté. Pour en parler avec nous, docteur Martin Ekeke Monono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert santé, stratégie et gouvernance pour la région Afrique de l'OMS. L'OMS qui plaide pour une couverture santé universelle. Le thème a encore été rappelé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril. Quelle définition donneriez-vous, docteur Martin Ekeke Monono, à cette couverture? Est-ce qu'il existe, par exemple, un pays que vous citeriez en exemple pour illustrer cette définition?
La couverture santé universelle voudrait que tous les individus et les communautés reçoivent des services de santé dont ils ont besoin, sans courir des risques financiers. Et surtout que ces services soient d'une qualité suffisante pour pouvoir être effectifs. Il y a 3 dimensions qui sont incluses dans cette définition. Il y a l'éventail des services qui sont offerts, il y a les populations qui sont couvertes et il y a la proportion des populations qui sont protégées contre les risques financiers.
Est-ce qu'on n'est pas là un petit peu dans la théorie et très très loin de ce qui pourra se réaliser dans les prochaines années en pratique?
Quand vous prenez des pays industrialisés, ils ont commencé il y a des décennies à mettre en place tout un système qui a permis qu'aujourd'hui, la plupart de leurs citoyens ont accès à ces services. Donc, nous pensons que même en Afrique, il y a des exemples des pays qui ont commencé à faire des efforts dans ce sens. L'Éthiopie, par exemple, pour améliorer la population couverte, a mis en place des systèmes communautaires qui a permis à ce qu'un certain nombre de soins soient accessibles aux gens qui jusque-là n'étaient pas couverts. Le Ghana a instauré un système d'assurance nationale où l'argent du TVA, une certaine partie, est destinée à la santé. En plus d'autres investissements, le Gabon est aussi dans cette voie. Le Rwanda avec son système d'assurance communautaire, le Botswana. Donc, il y a quand même des exemples de pays en Afrique qui se sont engagés dans cette voie. Ce qui est important, c'est d'abord une volonté politique. Et puis, nous, en tant qu'OMS, nous apportons des arguments techniques.
Docteur Martin Kekiemonono, vous avez cité un certain nombre de pays. Parmi les pays que vous avez cités, un seul est francophone, le Gabon. Justement, et pourquoi on peut quand même constater un certain retard du côté des systèmes de santé en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale par rapport à d'autres initiatives qui sont développées en Afrique de l'Est ou en Afrique australe?
Bon, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a des facteurs politiques, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de la pertinence des investissements, il y a tous ces différents aspects qui influent sur le développement sanitaire. Le constat est que beaucoup de pays francophones, ils ont un certain retard, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des efforts énormes qui sont en train d'être faits pour essayer de rattraper ces retards.
Mais docteur Martin Ekekimonono, on comprend bien ce que vous dites, on comprend bien l'ambition, les projets de l'OMS, mais de l'autre côté, il y a quand même la Banque mondiale et toutes ces institutions financières qui demandent aux États de faire des économies. Alors comment choisir justement entre cette rigueur budgétaire et l'accès aux soins pour le plus grand nombre?
Bon, en fait, nous essayons de montrer avec des preuves, avec des évidences, que contrairement à ce qui s'est passé, nous faisons l'argument qu'investir dans la santé, il y a des gains économiques, ça, il y a la croissance. Si nous prenons l'étude que nous avons faite sur le coût de la maladie en Afrique pour l'année 2015, ça a montré que c'est 2 400 milliards de dollars de pertes, le coût de la maladie. Et nous essayons pour que d'autres des pays fassent des études similaires dans leur pays pour montrer ce que la maladie coûte aux économies de nos pays. Mais un exemple récent, c'est l'épidémie d'Ebola qui a démontré que si un État n'investisse pas dans son système de santé, les répercussions pour son économie sont extrêmement graves.
Merci beaucoup, docteur Martin Ekekimonono. Je rappelle que vous êtes expert santé, stratégie et gouvernance pour la région Afrique de l'OMS. Très bonne journée à Brazzaville. Merci.
Merci beaucoup.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tous à Maquet, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Et demain, Priorité Santé sera à Amsterdam, où sont réunis depuis le début de la semaine scientifiques, politiques et acteurs communautaires à l'occasion de la 22e conférence internationale de lutte contre le VIH-Sida. Et pour la première de nos trois émissions sur place, nous vous proposons un état des lieux, statistiques, traitements, recherches, politiques de prévention, avec parmi nos invités le professeur Françoise Barré-Sinoussi, co-découvreuse du virus du VIH-Sida, présidente de SIDAction et prix Nobel de médecine, le professeur Serge Éolier, médecin-chercheur au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville en Côte d'Ivoire. On se retrouve donc demain à Amsterdam.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.